Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cine au Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois présenté dans une formule tout à fait exceptionnelle puisque nous sommes en public au cinéma Les 7 Batignolles. On s'apprête à redécouvrir sur grand écran un film dont on vous a déjà causé dans cette émission, La bataille de la montagne du tigre de Tsui Hark. L'occasion de consacrer une double émission à la tortueuse et passionnante carrière du réalisateur hongkongais dont la première partie arrive là tout de suite grâce au bon soin de mon camarade Rafik Djoumi présent ici. Salut Rafik.
Ici même. Salut Thomas.
Cine au Ciné Extra Ball spécial Tsui Hark épisode 1 et c'est parti.
Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
On va commencer par le commencement, Rafik. On va faire simple. D'où est-ce qu'il vient?
D'où sort ce gars?
D'où sort ce type?
Alors, Tsui Hark est né en Chine, mais sa famille a très vite émigré au Vietnam à l'époque. Et il vient d'une famille qu'on qualifierait, nous, de bourgeoise. Son père était pharmacien. Il a reçu une éducation assez autoritaire. Chaque enfant était censé réussir dans un métier sérieux. Donc, il a un de ses frères qui est devenu un homme d'affaires important, etc. Et lui était censé reprendre un peu la boutique. Et donc, on l'a poussé à faire des études de médecine et chimie, notamment de chimie. Et on va dire que, bon, il n'était pas mauvais, il s'y emmerdait un peu, mais il n'était pas exécrablement mauvais. Ça s'est fait à une époque qui était très agitée, en Asie, pas seulement parce qu'il y avait eu des guerres auparavant, mais aussi parce qu'il vivait aussi le contre-coup de toute l'agitation des 60s qu'il y avait eu en Occident. Donc beaucoup de révoltes étudiantes, ce genre de choses-là. Lui, traînait ses guêtres essentiellement au cinéma. Et c'est en fait lors d'une conversation avec un pote, parce qu'il a eu des doutes sur sa carrière, est-ce que il trouvait ça stupide de devoir choisir à un jeune âge quelque chose qui allait conditionner tout le reste de son existence. Ouais. Et un de ses potes lui a dit, tu passes tes journées à quoi? Et l'autre, il fait, au cinéma, cherche un boulot là-dedans. Mais en mode vraiment... vas-y, quoi. Il n'avait pas la moindre idée dans quoi il s'engageait. Il n'a pas fait d'école de ciné parce qu'à cette époque-là, il y avait peu de gens qui travaillaient dans le cinéma et qui étaient sortis d'école de cinéma. On n'était pas convaincus qu'on y apprendrait grand-chose. Donc, il s'est lancé un peu en dilettante là-dedans. Ses grandes références cinéphiliques, en fait, il a été c'est quelqu'un qui est assez avare en citations cinéphiles, même si à voir ses films, on se dit qu'il a évidemment un grand bagage. Le seul qu'il reconnaisse comme une influence très tôt dans sa carrière, c'est Kurosawa. Même si après, c'est assez difficile de voir le pas. Il y a des gens qui lui disent, mais les types comme Chang-Chi, par exemple, qui était un des grands cinéastes de films de sable de la fin des années 60, il dit, oui, si vous voulez, il n'est jamais très clair sur ce qu'il a formé.
Dissimulé.
Une chose est certaine, c'est que lorsqu'il fait son premier film, Butterfly Murders, lui n'a pas du tout la conscience de faire quelque chose de vraiment nouveau dans le cadre de la production hongkongaise. C'est plus le public, on va dire, entre guillemets, cinéphile et intellectuel, qui va y voir un pas entre ce film-là et la tradition du film de sabre de l'époque. Lui, il aura plus l'impression d'amener quelque chose de particulier avec son deuxième film, qui est Histoire de Cannibal.
Il avait fait ses armes à la télévision avant.
Oui, il a fait ses armes à la télé. Enfin, il a monté les échelons. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît, comme beaucoup de ces gars-là, toutes les étapes du métier. Ouais. Et c'est aussi ce qui va le préparer, mais on y viendra, à sa carrière de producteur. Mais quand il fait le film Histoire de Cannibal, il le fait là pour le coup dans un geste militant. C'est quelqu'un qui, en tout cas à l'époque, ne se préoccupe pas tellement du lendemain. Donc il a pas tellement la conscience de construire une carrière. C'est un jeune homme en colère. Il a grandi dans une période qui était, comme je l'ai dit, assez assez colérique, et il garde ça en lui. Et ce film-là, dont le titre international est « We're going to eat you », qui se termine par une nana qui arrache un cœur et qui le montre à la caméra. Il a balancé le cinéma de Hong Kong dans une espèce de geste presque de film d'auteur européen, ouais. Là où on attendait un film d'exploitation, quelque part. C'en est un, ça reste un film d'exploitation, mais on voit déjà un type qui, par son caractère un peu irresponsable et colérique, explose un peu les barrières. Ça va être encore plus marqué sur son film suivant, qui est L'Enfer des Armes, qui moi je considère comme son premier chef-d'œuvre. Je recommande vraiment vivement aux gens de découvrir ce film-là. L'Enfer des Armes, lui, au départ, il voulait vraiment pour le coup faire un film politique. Ouais. Sur la dérive de jeunes ados dans une forme de terrorisme militant, et les producteurs en fait l'avaient engagé pour faire un film, en gros un film d'action. Donc ça a été vraiment un bras de fer très compliqué, dont lui estime qu'il l'a perdu. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes qui ont été tournées pour L'Enfer des Armes qui ont été complètement censurées par la production, et à côté de ça on lui a fait retourner toute une intrigue qui touche aux Américains et au trafic d'armes, etc., sur laquelle lui était beaucoup moins, on va dire, convaincu. Néanmoins, ce que je trouve extrêmement intéressant avec L'Enfer des Armes, c'est de la même façon que sur le film de Paul Verhoeven, La chair et le sang, qui se voulait au départ être un film très politique et qui s'est retrouvé devoir être un film d'action et d'aventure.
Oui. Lessivé par la prod.
En fait, le geste politique, je trouve qu'il est encore plus puissant du fait qu'il ait lieu dans un film a priori d'action. Ouais. C'est-à-dire que quand on se tape L'Enfer des Armes, on y va pour voir des gars se tirer dessus dans tous les coins, et en plus magnifiquement, parce que le film est incroyablement mis en scène. Mais on se prend dans la gueule quelque chose de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette société ? C'est vraiment le monde dans lequel on vit, sans que ce soit explicité à aucun moment. Ouais. Il y a un caractère dépressif et agressif dans ce film. La séquence d'ouverture, par exemple, qui nous montre une jeune fille torturée, une souris, dans un appartement où les fenêtres sont ouvertes, il y a l'orage dehors et la radio qui crache les mauvaises nouvelles, et c'est monté en parallèle avec les trafiquants d'armes, enfin pardon, la police en train de parler des trafiquants d'armes et tout. On a à l'écran une succession de trucs, ça n'est que de l'agression en fait. Agression, agression, agression. Agression animale, agression de la nature et des éléments, agression des news. D'emblée, on est accueilli dans un monde pourri où on se demande pourquoi à quoi bon vivre, quoi. On est vraiment exactement dans le mood de ces adolescents qui, a priori, pourraient mener une bonne vie, quoi, ouais. Et qui vont vraiment s'abandonner à l'horreur, quoi, un chemin droit vers l'horreur. Donc c'est vraiment un film fascinant, c'est presque une sorte d'Orange Mécanique hongkongais dans son côté punk et désespéré. À l'époque, quand il fait ce film-là, il a l'impression qu'il va payer un prix fort. Je pense qu'il se disait souvent, c'est mon dernier.
C'est mon dernier,
quoi.
Film, ouais.
Mais tant pis,
c'est
toi,
pas la
je
première,
brûle
c'est,
tout
c'est
derrière
pas la seule
moi.
Fois où ça va lui arriver.
Et en fait, non. Le film se vend bien à l'étranger et tout ça. Il sort même en France en vidéo chez Scherzo, dans la collection qui était à l'époque supervisée par Christophe Gans, qui d'ailleurs avait eu la très bonne idée de le sortir dans son format Cinémascope, ce qui à l'époque en VHS était particulièrement rarissime. Donc merci Christophe Gans si tu nous écoutes. Et en fait, il va enchaîner avec un film qui là pour le coup est un film plus populaire, qui est Zhou, les guerriers de la montagne magique, qui s'inscrit dans une tradition du film de sabre qui est déjà bien implanté dans la colonie, mais lui va décider de lui faire perdre pied, parce que jusque-là, et c'était le cas de Butterfly Murders, c'était quand même un genre qui avait les pieds sur terre, même si les combattants faisaient des sauts de 5 mètres de haut. On restait quand même à peu près dans un truc cohérent. Ouais. Avec Zhou, on part complètement ailleurs, quoi. Voilà, il saute plus, il vole. les combats ont lieu à 50 mètres au-dessus du sol. On est vraiment dans un fantastique qui, à l'époque, est inconcevable en film. En fait, il y a eu des dessins animés comme l'adaptation en dessin animé du Roi des Singes ou ce genre de choses-là qui se permettaient ce genre de délire fantasmagorique, mais en film, on l'avait pas vu. Et Zhou, je crois qu'il marche plutôt bien à Hong Kong, mais une chose est certaine, c'est que c'est vraiment le film qui va s'exporter, ouais. Parce qu'il arrive à une date clé, on est en 84, je crois, il n'y a rien à l'époque qui ressemble à ce point à la culture à venir, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le zoo dans les années 80, on a l'impression que c'est vers ça que nous tend le jeu vidéo, c'est vers ça que nous tend la littérature de fantasy. On sent que l'avenir sera fait de ça. Et je ne serais pas du tout étonné que plein de développeurs de jeux vidéo, notamment au Japon... Et était vraiment inspiré par ce film-là. Voilà, ouais. En France, il va passer au Festival du Rex. Ça va créer une émeute. Les mecs, le public de l'époque, il a quand même été éduqué essentiellement à Bruce Lee, c'est-à-dire à des films de Hong Kong extrêmement urbains et tout. Ouais. Il se tape tout d'un coup, je dis, une borne d'arcade, quoi. Enfin, en plus, un film visuellement qui est somptueux, extrêmement chorégraphié, etc. Ils ne savent pas d'où ça sort, quoi. Ça va générer spontanément la création d'un fanzine. À l'époque, qui s'appelle Butterfly Warriors, qui pourrait presque être le fanzine de Tsoyark en France, où va débuter notamment Julien Carbon, qui sera un des journalistes spécialisés pendant très longtemps sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma populaire hongkongais. Enfin voilà, donc Zhu, c'est vraiment le film qui va circuler dans tous les Chinatown du monde et qui va vraiment faire la réputation. Tout d'un coup, il y a un nom qui est apparu et il faut le suivre. À la suite de ça, il va se laisser pousser des ailes, on va dire, commencer à envisager la possibilité d'une carrière. Et il va se diriger vers un genre qui est à l'époque plutôt en perte de vitesse, qui a été un genre très très prisé dans les années 40 et 50 dans le cinéma chinois, qui est le mélodrame, pardon, avec notamment le film Shanghai Blues. Oui. Donc film en costume, reconstitution, etc. Qui est presque son hommage cinéphile, en fait, à tout un cinéma qu'il a fait grandir. Et il va se servir de ce film pour créer sa société de production. Donc il va appeler la Film Workshop. D'ailleurs, il raconte que il y avait les producteurs du film étaient tellement peu habitués à l'idée d'un réalisateur qui monte sa propre société de production qu'ils pensaient que Film Workshop c'était le titre du film, en fait. Ça en dit long sur les rapports qu'il pouvait avoir avec la prod. Donc il y a Shanghai Blues qui est immédiatement suivi de Peking Opera Blues. Pareil, vraiment deux films, si vous avez l'occasion de les voir, qui sont vraiment magnifiques. Peking Opera Blues est plus une chronique de jeunes amours presque à la nouvelle vague, en fait, mais avec une mise en scène de film d'action. Donc c'est, si vous voulez voir à quoi peut ressembler un film de Truffaut dans lequel Don Siegel aurait surgi, c'est vraiment le film idéal. Qui sont pas des films qui se destinent à de grandes carrières commerciales, mais qui vont lui donner une vraie assise auprès de tous ses collègues, en fait. Ce sont des films qui sont bien vus. Et du coup, la bonne idée d'avoir fait ce genre de film-là, un peu exigeant sur un plan cinéphile, super bien photographié, très esthétisant et tout ça, en montant sa boîte de prod, fait que sa boîte de prod va immédiatement être labellisée qualité, tu vois. C'est pas uniquement de l'exploitation. Et il va attirer à lui forcément les talents. Alors, le cinéma de Hong Kong à l'époque, enfin, pas seulement le cinéma, en fait, tous les milieux d'affaires de Hong Kong fonctionnent un peu sur des hiérarchie et des principes qui nous peuvent peut-être nous échapper en tant qu'occidentaux, mais qui pourraient nous apparaître comme médiévaux. Le truc, c'est que petit à petit, en fait, il va se devenir une espèce de seigneur de son territoire. Et y a une différence vis-à-vis du seigneur. Donc les gens qui vont bosser pour lui, c'est vraiment des soldats, en fait. Oui. Il a même sa propre armée, en fait. Tu vois, s'il a des à régler avec d'autres producteurs, ça se règle par comme dans les films de Hong Kong, par gang interposé, quoi. Donc c'est une toute autre toute autre ambiance, c'est une autre culture, voilà. Mais il va commencer donc à devenir un seigneur qui compte dans le cinéma hongkongais. C'est pour ça que pendant longtemps en France, quand on essayait d'expliquer aux gens qui était Tsoyark, on parlait de Luc Besson, parce que c'était finalement ce qui pouvait se rapprocher le plus, c'est-à-dire à la fois un réalisateur à succès, connu du public, et en même temps un producteur incontournable, très puissant, voilà. Mais bon, c'était vraiment uniquement en termes de structurel, voilà. Pas forcément sur la réalisation et les films qu'il fait, qui contrairement donc à Besson, on a l'impression que chacun de ses films c'est un prototype. Il y a toujours ce côté chez Tsoyark qui est fait dans l'urgence, comme encore une fois comme s'il brûlait tout derrière lui. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques qui l'obsède et qu'il reconnaît, parce qu'il reconnaît peu de choses, il intellectualise pas tellement son cinéma, mais il dit qu'effectivement il est obsédé par cette idée de pourquoi les Chinois sont-ils toujours en train de fuir. Et en plus, quand il monte la Film Workshop, on est donc au milieu des années 80, Hong Kong a déjà commencé les négociations pour la rétrocession de 1997, c'est-à-dire que la colonie britannique va retourner à la Chine populaire, et il y a déjà des tas d'hommes d'affaires et des gens qui sont en train de fuir le pays. Donc, il vit aussi dans cette ambiance de « on brûle tout derrière nous ». Quoi. Et son cinéma s'en ressent, pas seulement les films qu'il réalise, mais également ceux qu'il produit. Donc, dans les réalisateurs qu'il va produire, il va notamment être celui qui va littéralement sauver la vie d'un réalisateur qui a déjà tourné plusieurs comédies à Hong Kong, mais qui est dégoûté par son métier et qui n'a jamais réussi à s'imposer, qui s'appelle John Woo, et qui est sur le point de raccrocher, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est pas un gueulard, c'est pas comme Tuark, un guerrier, quoi. Il a tendance à obéir, John Woo. Et lors d'une discussion... dépressive autour dans un bar où ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont les mêmes références cinéphiles, notamment les films de Melville, etc. C'est Sawyer qui va vraiment le convaincre d'essayer à nouveau, genre faisant au moins un, en mode kamikaze, mais faisant au moins un, et ça va donner The Killer, qui va vraiment évidemment faire exploser John Woo au niveau international. Il va produire Better Tomorrow. En fait, je me suis trompé. C'était à Better Tomorrow qui va faire ça. Et The Killer qui explosera au niveau international. Mais donc, Sawyer va produire Better Tomorrow qui va être tellement, qui va impressionner tellement de monde, tellement régénérer le cinéma hongkongais qu'évidemment, il va tout de suite donner lieu à des suites, dont la deuxième sera également réalisée par John Woo en mode ultra, on va dire. C'est-à-dire, en gros, c'est Evil Dead 2 de Better Tomorrow. Et Soyark reprendra le relais pour le troisième film, qui est moins réussi que les deux autres, mais qui est aussi le plus politisé du lot, parce qu'il se confronte directement à la question de la rétrocession. Et l'autre réalisateur qui va lancer... Alors, sur le plan international, il va y avoir Kirk Kong, qui aura une petite carrière hollywoodienne aussi, et aussi Ching Siu Tung, qui était un directeur de combat, qui bossait pratiquement sur toutes les prods hongkongaises de l'époque, et avec qui ils vont développer le concept de histoire de fantôme chinois.
Oui.
Qui est très très influencé par tout le film du cinéma fantastique, la régénérescence du cinéma fantastique américain des années 80, mais en version asiatisée, version chinoise, quoi. Et le film va être un succès international, va très bien se vendre à l'étranger. Donc, d'ailleurs, on peut se demander quel a été l'apport, parce que c'est toujours compliqué aussi sur les productions de Sawyer de savoir qu'est-ce qu'il a réalisé, enfin, qu'est-ce que le réalisateur a vraiment réalisé.
Oui.
C'est pas, c'est-à-dire, ça a beau être un auteur sur ses propres films, il n'a pas forcément cette politesse sur les films de ceux qui produit. Quand il n'est pas content, il peut prendre la caméra et aller tourner des scènes dans son coin. Le film de l'espèce de film de robot qu'il avait produit à I Love Maria, par exemple, on sait que la moitié des scènes, c'était lui qui les avait tournées aussi. Donc, à cette époque-là, donc à la fin des années 80, cette vague hongkongaise qui va vraiment... alors, je voudrais bien dire qu'il va déferler sur le monde. En fait, elle ne va pas déferler sur le monde. Elle va déferler dans les Chinatown, essentiellement. Mais c'est les cinéphiles qui vont avoir l'impression d'un déferlement, parce qu'à la fin des années 80, on va se taper 10, 15, 20 films de hongkongais qui ressemblent à rien de ce qu'on connaissait avant, qui ont en gros tous ces polars et ces films de sabre incroyables de l'époque. Et le nom de Sawyer qui est vraiment, il trône au-dessus de tout le monde. Et c'est curieux de se dire qu'effectivement, ce sera celui dont le nom qui restera le moins marqué en France, en fait, ou même dans d'autres pays. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé étonnant, c'est pourquoi le Festival de Cannes n'a jamais eu l'idée de le faire rentrer dans aucune des cases. J'avais posé la question directement à Thierry Frémaux, qui m'a dit qu'ils ont des très bons rapports avec lui, il a fait partie du jury lors d'une année, etc. Mais ça s'est pas fait pour des tas de raisons, parce que les Chinois, leurs films sortent à la rentrée, donc il a jamais de film. C'est pas tout à fait vrai, parce que il y a un film comme The Lovers, par exemple, qui était une grande fresque romantique sur un récit qui ressemblait un petit peu à un mélange de Mulan et de Yentl, on va dire, donc avec une jeune fille qui se fait passer pour un garçon pour aller étudier dans une école, l'époque Ming, je ne sais pas exactement, je suis nul en histoire chinoise, et qui évidemment tombe amoureuse d'un autre garçon et ne peut pas révéler qui elle est. C'était un film idéal pour le festival de Cannes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce truc n'est pas rentré en compétition, parce que ça reste le plus important des cinéastes asiatiques à n'être pas, entre guillemets, connu en Occident. Et donc, voilà, à cette époque-là, donc, il fait The Lovers. Love in the Time of Twilight aussi, qui est juste après, qui est une comédie, ce qui sont les comédies du Nouvel An, parce que pour le Nouvel An chinois, ils ont l'habitude aussi de sortir des films qui, là, pour le coup, sont généralement des films beaucoup plus familiaux. Et comment dire, qui n'ont pas vocation à être des films qui vont aller à l'étranger. Et donc, voilà, arrivé au milieu des années 90, on peut dire qu'il est à la tête de son empire. La Film Workshop tourne plus ou moins bien, avec ses succès, ses échecs, mais elle tourne. Il est vraiment installé. Et il sent qu'il tourne en rond, quoi. Et c'est un ouf malade. Il faut que ça bouge tout le temps pour lui. Il faut brûler les trucs. Et il va brûler son cinéma en faisant ce film complètement ovni qui est The Blade, dans lequel il va reprendre le mythe le plus souvent adapté dans le cinéma hongkongais, qui est vraiment la base, quoi, qui est le mythe du sabreur manchot, qui a donné des chefs-d'œuvre comme La Rage du Tigre à la fin des années 60, donc de Chang-Chi, et des tas d'autres films qui ont repris exactement cette structure, et l'exploser complètement. Et donc faire une nouvelle adaptation du Sabreur Manchot avec une mise en scène dont on a, à l'époque où elle nous arrive dans la guerre, on ne sait même pas vraiment d'où elle vient, quoi. On n'est ni dans l'expérimental européen, ni dans le blockbuster hollywoodien, ni dans le cinéma asiatique de l'époque. Il invente tout d'un coup, en fait. Il invente une caméra hyper cut qui prévoit, qui déjà présage de ce que va être le cinéma d'action des années 2000. Beaucoup de plans à l'épaule, etc. Enfin, genre, il dynamite tous les codes, quoi. Mais je sais même pas, à vrai dire, si le dynamite en réalisateur conscient de son pouvoir sur le monde et sur les autres, sur les formes,
juste parce que, voilà, besoin
de tout casser, quoi. Ouais. Voilà, je connais toutes ces règles-là, j'ai besoin de tout péter, quoi. Et c'est ce qui le rend révolutionnaire, je pense, c'est que c'est au fond un vrai révolutionnaire, mais presque au sens marxiste du terme, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a des rapports très très ambigus avec le marxisme. Il y a un film qui est très peu connu qu'il a produit qui s'appelle King of Chess, qui est un film qui se passe dans un camp de prisonniers, qui est un film explicitement politique, qui avait été confié à un réalisateur dont le nom m'échappe, mais qui se voulait une dénonciation de l'horreur du communisme. Et Tsoyark, en fait, ça lui a posé un problème. Il a produit le film, puis au fur et à mesure de la production, il s'est dit, mais ouais, quand même, le communisme, c'est pas que de la merde non plus.
C'est pas si nul.
Et donc, il a tourné, lui, des scènes pour rééquilibrer idéologiquement le film dans une vision plus marxiste, justement. Alors, c'était marrant parce que le film s'appelle King of Chess et donc il met en scène une partie de jeu d'échecs dans ce camp des prisonniers. Et c'était vraiment un jeu d'échecs entre ce réalisateur, je suis désolé, son nom m'échappe, qui a avancé ses pions anticommunistes et Tsoyark qui disait non, putain, la révolution, merde. Donc, voilà, c'est ce genre de personnage-là. Dans une autre vie, il aurait mené des armées et coupé les têtes des bourgeois. Donc voilà. Et arrivé au milieu des années 90, enfin, l'effet The Blade est tellement décisif. En plus de ça, ses élèves, entre guillemets, ses soldats, ont commencé à faire carrière à Hollywood. On a donc Ringo Lam qui fait des films de Van Damme, John Woo qui a évidemment explosé. Du coup, Hollywood se dit, il paraît que tous ces gens-là sortent de la même école et c'est l'école de Tsoyark. Et si on allait voir ce gars-là? Et c'est là qu'il va être approché par les Américains pour faire des productions internationales. Mais ça sera pour notre épisode
mais
à
tout
venir.
Tout à fait, ce sera pour l'épisode de demain. Merci beaucoup, Rafik. Merci Seb à la technique, cinéma, les 7 Batignolles et au public, évidemment, pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite, puis bon film.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.